Et l'exposition Wayfinders au gré des sens est là et nous invite à repenser notre rapport à l'espace et aux autres à travers le prisme de la sensorialité et de l'expérience vécue du handicap. L'exposition Wayfinders est présentée donc au Montréal Art Interculturel du 3 avril au 16 mai. Et pour en parler, nous recevons Tamar Tembeck, qui est historienne et co-commissaire. Bonjour, bienvenue à l'émission.
Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
Alors, le titre de l'exposition évoque le concept de wayfinding ou l'art de s'orienter dans le contexte actuel de désorientation sociale et environnementale qu'on mentionne notamment dans la présentation de l'événement. Comment l'art peut-il concrètement nous aider à trouver de nouveaux repères?
Oui, alors pour nous, on est trois co-commissaires, Erin Richmond, Audrey-Anne Bouchard et moi-même. Pour nous, c'était vraiment important d'aller regarder les pratiques des artistes pour se donner justement des repères, en fait, dans cette situation actuelle de désorientation politique, environnementale et sociale. Et on a choisi des pratiques qui nous ramènent vers l'expérience de nos sens et des sens multiples. Donc, contrairement à traditionnellement ce qu'on attendrait d'une exposition, on s'attendrait peut-être à ce qu'on mette l'accent sur le visuel. Ben, ici, on va interpeller le toucher, l'ouïe, même l'odorat avec certaines de ses œuvres. Et l'idée, c'est vraiment de se réorienter, de se retrouver autrement grâce à les stimuli que nous amènent toutes ces œuvres.
Alors, l'exposition réunit 10 artistes aux capacités mixtes. Alors, comment les co-commissaires dont vous faites partie ont réussi à effacer la frontière traditionnelle entre les pratiques artistiques des personnes en situation de handicap et celles qui ne sont pas en situation de handicap?
Oui, en fait, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur. Nous-mêmes, nous sommes un collectif co-commissarial aux habiletés mixtes, mais qui avons tous de l'expérience de travailler avec avec des œuvres qui sont par des personnes en situation de handicap. Et en fait, nous, on voulait vraiment aller à l'encontre d'une forme de séparation des pratiques qui se retrouve peut-être dans, par exemple, les structures de financement au Conseil des arts. Et pour d'autres raisons, des fois, les communautés sont en silo. Oui. Et pour nous, c'était vraiment intéressant de, au contraire, amener au dialogue, à la rencontre, à l'échange. Donc, on a fait une sélection d'œuvres en essayant d'aborder des œuvres qui, justement, traitent de multisensorialité, des fois des espèces de traductions sensorielles, si on veut, qui passent d'une forme de sens vers un autre, donc du visuel à l'ouïe, par exemple. Et on avait constaté qu'il existait des pratiques qui étaient faites autant par des artistes en situation de handicap que d'autres personnes qui s'intéressent simplement aux enjeux de multisensorialité. Donc, c'est en fait ça qui a animé la rencontre de toutes ces œuvres.
J'ai noté l'œuvre de Piet de Vos qui semble avoir été une étincelle majeure pour ce projet. Parce que l'artiste a son alphabet synesthésique. Alors, de quelle manière cet alphabet a-t-il influencé non seulement les œuvres, mais aussi la conception même de la signalétique tactile de la galerie?
Oui, merci d'amener ce point. En fait, Piet de Vos, un auteur belge qui est malheureusement décédé depuis le début de notre projet, de la conception de notre projet, que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises alors qu'il passait du temps à Montréal. Piet était un poète aveugle qui, entre autres, avait écrit un poème sur sa navigation à Montréal après une tempête de neige. Il parlait de naviguer sans compas. Et il a développé cet alphabet synesthésique parce que, ayant perdu la vue à l'âge de 5 ans, il avait en tête des couleurs. Et pour lui, chaque lettre, il l'associait à une couleur. Et quand il a appris que, quand il écrivait en braille, sa dactylo braille ne produisait pas de couleur, ça l'a étonné. Donc, il a voulu développer un alphabet qui mélange à la fois des caractères latins et les caractères de braille. Donc, c'est un alphabet qui est à la fois pour les yeux et pour le toucher et qui incorpore aussi des couleurs. Et inspiré de cette démarche-là, on a créé une signalétique, une forme comme des écussons qui permettent de repérer les œuvres de chaque artiste qui sont à la fois accessibles au toucher et au regard. Mmh. Donc, ça a été vraiment important pour nous dans la conception, disons, du design, de l'orientation, de la navigation dans l'exposition, mais plus largement une conception plus sur le plan conceptuel, en fait, de comment on s'oriente dans le monde.
L'exposition propose des descriptions en LSQ, langue des signes du Québec, en ASL, c'est American Sign Language, je pense qu'on dit.
Exact.
Oui, en audio et en braille. Au-delà de l'aspect technique, là, comment cette volonté d'inclusion transforme-t-elle l'expérience esthétique pour un visiteur qui n'a pas de limitation sensorielle particulière?
Alors oui, c'est une bonne question aussi. En fait, pour nous, la porte d'entrée vers les descriptifs des œuvres passe par les audiodescriptions. Donc, on a fait le choix de ne pas mettre de cartel. Des fois, dans des expositions, on va avoir des cartels explicatifs au mur qui donnent des descriptions des œuvres en format textuel. Pour nous, la porte d'entrée, c'est vraiment accéder aux vidéos qui incorporent à la fois l'audiodescription narrée, donc une voix orale, l'audiodescription en langue des signes, soit ASL ou LSQ. Et donc, c'est ça. En fait, il faut passer par ces modalités-là pour en savoir plus sur les œuvres. Donc, c'est aussi une occasion d'apprendre pour les personnes qui ne sont pas familières avec ces pratiques-là. C'est une façon d'être exposée à des pratiques d'accessibilité de cette sorte.
En fait, j'ajouterais, la langue des signes, c'est une langue qui possède toute une culture aussi pour avoir participé à des événements où c'était des poètes et des auteurs, autrices sourds qui présentaient leurs œuvres en langue des signes et c'était interprété pour nous. C'était vraiment intéressant comme expérience. Alors,
oui.
Je peux s'imaginer. Je voudrais parler aussi d'autres œuvres. On parle de celles de Rolande Soulière ou de Salima Punjani qui font appel à l'odorat et au toucher. Alors, ça aussi, on sort encore des sentiers battus avec ça.
Tout à fait. Puis, juste pour faire suite à ce que vous avez dit par rapport aux œuvres avec la langue des signes, il y a Véro Leduc qui a fait une œuvre qui est à la fois visuelle et tactile, en fait, où elle utilise le chant signe, donc une forme de poésie en langue des signes. Oh. Et oui, effectivement, Rolande Soulière, artiste qui a créé une œuvre vraiment olfactive qui nous invite à ouvrir des Rolodex, là, pour de ma génération. Qui
la mienne aussi.
C'est quoi un Rolodex? C'est ces anciens, c'est ces systèmes pour garder des cartes de contact avant l'époque numérique. Puis en fait, en tournant le Rolodex, ben, en fait, on a des effluves d'odeurs liées aux quatre médecines sacrées dans la culture Anishinaabe de l'artiste. Et Salima Punjani est une autre artiste basée à Montréal qui, elle, en collaboration avec une artiste écossaise qui s'appelle Greer Pester, elle a développé de nombreux coussins sensoriels, vibrants, qui évoquent les organes des sens, justement.
Et l'exposition donc, est ponctuée de nombreuses activités qu'on dirait public plus. On parle en fait de médiation culturelle ici, c'est ça?
Médiation culturelle, mais également des performances, des ateliers, donc vraiment des activités satelliques, des activités connexes qui, pour nous, font partie, en fait, de la conception de l'expo.
Oui. Je terminerai en parlant de la collaboration avec des institutions comme la chaire de recherche de l'UQAM ou le Center for Sensory Studies de Concordia. Ça enrichit vraiment la démarche, la rigueur de la démarche commissariale?
Bien, pour nous, en fait, il faut vraiment remercier tous nos partenaires parce qu'on en a eu beaucoup. C'est un projet, je ne vous cacherai pas, qui est ambitieux et d'envergure. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce projet. Et même pour pouvoir réaliser, par exemple, les vidéos en ASL, LSQ, la chaire de recherche du Canada sur la citoyenneté culturelle des personnes sourdes et les pratiques d'équité culturelle a été d'un appui vraiment essentiel en nous fournissant l'accès aux interprètes et même on a pu filmer dans leurs locaux. Donc ça, c'est vraiment précieux. Et ça permet aussi d'inscrire cette démarche aussi dans le réseau de la recherche plus universitaire. Donc, on essaie de décloisonner également sur ce plan-là.
Oui. Alors, je termine en disant que le vernissage de Wayfinders au gré des sens aura lieu le 2 avril le prochain à 17h et l'exposition se poursuivra jusqu'au 16 mai au MAI. C'est situé sur la rue Jeanne-Mance. Merci beaucoup, Tamar Tembeck, d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous. Au plaisir.
Au plaisir.